Spectaculaire Quai de Loire et Quai de Seine, Paris 19e.
Info sur concert.radiofrance.fr.
France Inter. La voix est libre.
Et c'est la voix qui est libre maintenant pour là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet, son répondeur.
Pourquoi ne considère-t-on pas ces délits fiscaux comme des activités criminelles? Et que, à ce moment-là, ce serait la section criminelle de la police qui pourrait s'en saisir. Voilà. Je pose cette question-là.
C'est la première fois que je laisse un message au répondeur là-bas si j'y suis. Je viens d'écouter l'excellente émission sur l'évasion fiscale. Je souhaitais vous féliciter pour cette émission ainsi qu'apporter une information complémentaire vis-à-vis de Bradley Birkenfeld sur lequel on a appris que le fisc américain lui a donné une récompense, tenez-vous bien, de 104 millions de dollars pour les informations qu'il a transmises au fisc. Sachant que ces informations ont quand même permis au fisc américain de récolter plus de 5 milliards de dollars d'impôts et de pénalités auprès des fraudeurs, ainsi qu'une amende de 780 millions de dollars auprès du BS. Et ben voilà, c'est la bonne méthode pour lutter contre l'évasion fiscale, puisque suite à cette annonce, tous les médias suisses, ils ont tous accepté le fait que les banques suisses vivent sur de l'argent sale et de l'évasion fiscale, et que c'est la bonne méthode puisque ça met le doute auprès à la fois des évadés fiscaux et des banques suisses. Voilà, je voulais juste apporter cette information complémentaire. Bon courage à vous et puis merci pour vos émissions. Au revoir.
Bonjour, comme vous le disiez si bien, personne n'a l'air de s'émouvoir beaucoup de cette évasion fiscale, et sans parler de la fraude fiscale, c'est-à-dire la manière dont les nantis effectivement se soustraient à l'impôt grâce à leur richesse justement. Et ils préfèrent s'indigner, donc j'ai entendu la responsable de la Cour des comptes et puis à sa suite Sapin et les autres, s'indigner par contre du fait que, horreur, malheur, les retraités bénéficierait d'une niche fiscale, c'est-à-dire une demi-part en regard de l'année qu'ils ont passé à travailler, et ils auraient une CSG moins importante que les autres. C'est terrible. Voilà. Et c'est ça qui indigne le gouvernement actuel. C'est les privilèges des retraités.
Oui, bonjour. C'est Brigitte de Port-Louis en Bretagne. Je vous appelle au sujet de la mort d'Édouard Leclerc. Voilà, de gauche comme de droite, des hommages unanimes, toute la presse en parle. Dans le télégramme de ce matin, il y a la une, les quatre pages. Il y a juste Arnaud Racapé sur France Culture hier qui a quand même émis un petit doute sur les activités pendant la guerre. Il y en a un quart de ligne dans un des articles du télégramme. Sinon, personne n'en parle et moi j'aimerais qu'on ait une pensée pour un journaliste de Rennes qui s'appelle Bertrand Gobin. Un journaliste indépendant qui n'est pas tout jeune et qui est quand même le président du Club de la Presse de Bretagne, c'est pas n'importe qui. Et il est mis en examen, il sera devant le tribunal à Paris fin janvier 2013 pour avoir fait un travail d'archives sur le passé un peu sombre d'Édouard Leclerc pendant la guerre. Voilà. Envoyé spécial, on avait fait un dossier intéressant en 2011, Mediapart aussi, Marianne, Libé, FR3. Et ça, on n'en parle plus du tout, on n'en parle pas. Et tout ce passé bien sombre est ressorti au moment de la Légion d'honneur en 2009. Même l'ancien préfet du Finistère s'était opposé à cette décoration. Et voilà. Ça ne change rien à Édouard Leclerc, homme d'affaires et brillant visionnaire dans le domaine du commerce, mais il y a quand même des choses très graves qui se sont passées en 1944. Il y a des dossiers. J'aimerais bien qu'on parle de ça, qu'on parle de lui. Bertrand Gobin, il y a un comité de soutien. Vous pouvez regarder son site sur Internet. Voilà.
Salut Daniel, c'est Laurence. On a déjà discuté pas mal de fois ensemble. Et voilà, je voudrais t'interpeller sur le dossier des saudis médicales ce matin. Les salariés se battent depuis donc 2 ans. Elles ont gagné, elles et ils, hein, parce qu'il y a quand même 52 filles et 2 garçons. Elles ont gagné 32 fois au tribunal. La 33e fois, c'était le 11 juillet dernier, où le tribunal de Reims leur a donné raison et a obligé l'entreprise, la multinationale Le Manet Rocher, non seulement à relocaliser l'activité sur le site de Plancy, l'abbaye dans l'Aube, mais en plus, et surtout, surtout à payer les 10 mois de salaire de retard que les salariés attendent. ce matin, coup de massue, le tribunal de commerce là, de Reims a prononcé la liquidation de l'entreprise. Voilà. Se battre pendant 2 ans pour apprendre que malgré 32 victoires, 33 victoires même, on en arrive aujourd'hui à une liquidation, c'est hallucinant, quoi. C'est scandaleux. C'est purement scandaleux. Je pense qu'on devrait tous en appeler à Madame Taubira et à Monsieur Montebourg, hein, ministre d'une part de la justice, d'autre part du redressement productif, pour que la première chose qu'ils aient à faire, c'est à faire appliquer les décisions de justice. Parce que si en France, les salariés gagnent au tribunal et que les décisions de justice ne sont pas appliquées, bon, on n'y croira plus. Donc je fais un grand salut aux salariés de Sodimed Medical. Je les embrasse bien fort, j'embrasse Angélique, je les embrasse tous. Et puis ben voilà, je leur dis qu'on va continuer à se battre et que ben voilà, on lâche rien.
Le repère de là-bas si j'y suis de Clermont-Ferrand attaque avec fougue sa 5e année d'existence ce mercredi 19 septembre à 18h30 au Baroque Café avec son sympathique patron Aurélien. C'est 5 boulevard Trudaine à Clermont-Ferrand. Pas plus morose que ça, nous nous pencherons avec attention sur le bilan du gouvernement Hérolland après 5 mois d'expérience. Nous nous préoccuperons aussi de l'état du monde. À mercredi, chers AMG de Clermont et d'ailleurs.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Messages qui me parviennent ici, au bord de ce petit cours d'eau, avec des flamants roses, avec des arbres en plastique, avec des gens qui sont autour de nous et qui fument abondamment. Qui fument abondamment, vous dites, on croyait qu'ils étaient aux États-Unis avec des gens qui fument autour d'eux. Eh bien oui, ici à Las Vegas, vous avez le droit de fumer, que vous soyez comme ici exceptionnellement à l'extérieur et surtout que vous passiez vos jours et vos nuits derrière les machines à sous, vous pouvez fumer. Ce n'est pas le seul péché auquel vous pouvez vous livrer. Vous pouvez vous livrer à peu près à tous les péchés. Sin City, la ville du péché, et Las Vegas, vous savez tout ça, et on va essayer de voir les élections américaines à travers cette ville clinquante, débordante, dont vous savez à peu près tout. Évidemment, on va essayer d'aller voir, selon notre vieille marotte, l'envers du décor. Aujourd'hui, les médias américains, la télévision américaine, est secouée par une bombe qui vient de Mitt Romney. Selon l'hebdomadaire Mother Jones, Mitt Romney, lors d'une séance de levée de fonds de fundraising, aurait déclaré, je cite, que 47% des électeurs votent Obama parce qu'ils dépendent des aides de l'État. L'État pense qu'ils sont des victimes et qu'il est du devoir du gouvernement de les assister, alors que eux pensent, les assister, avoir droit, honte, à une couverture maladie, à être logé et à être nourri. Mon travail de candidat, a dit Mitt Romney, n'est pas de tenter d'atteindre ses assistés. Alors évidemment, il se met à dos quand même pas mal de monde dans le pays, et pour des observateurs comme ceux du New York Times, comme ceux de Bloomberg TV, avec ça, eh bien, Mitt Romney aurait déjà perdu la bagarre. Mais enfin, il faut quand même suivre tout ça de près. Mitt Romney a déclaré également « La moitié du pays sont des perdants pour qui on ne peut plus rien. » Et selon le Financial Times, il aurait déclaré un jour « Jeune, je pensais que devenir riche et célèbre suffirait à me rendre heureux et j'avais sacrément raison. » Alors il faut voir si ce genre de personnage, si ce genre de propos, si ce genre d'idéologie marche toujours auprès de l'électorat américain à l'heure des grandes difficultés, à l'heure de la récession, à l'heure du chômage très important dans le pays, à l'heure aussi où les États-Unis, les Américains prennent vraiment, vraiment conscience des très profondes inégalités qui parcourent et qui divisent cette société. Ça a été les années du terrorisme, de la lutte antiterroriste, il y a eu des tas de diversions, mais cette fois-ci, tant bien que le thème des inégalités soit dans tous les esprits et sera un élément important de la décision des Américains pour le 6 novembre prochain. En lien peut-être avec ce que je vous raconte là, on va retrouver Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm est probablement le plus grand historien vivant aujourd'hui. Il est âgé, il a dépassé 90 ans et il est l'auteur, comme vous le savez peut-être, de l'âge des extrêmes. On l'avait rencontré il y a quelques années pour cette occasion. Je vous recommande vraiment chaudement de lire et de relire Eric Hobsbawm. Et là, il y a quelque temps, il était venu nous voir pour parler de la place de la Révolution française dans, disons, l'imaginaire historique des Français. Très longtemps, la Révolution a occupé une place de référence essentielle pour nous, pour tous, pour aussi bien la gauche, la droite, la bourgeoisie, la gauche, l'extrême gauche et tout le monde. Et puis, dans les années 80, la Révolution française est devenue une référence pas folklorique, mais simplement un objet d'histoire qui ne serait plus capable de fournir aujourd'hui une référence et du sens. Et c'est pourquoi Eric Hobsbawm, écrivain encore une fois anglais, mais qui connaît très bien la France, avait écrit ce texte et était venu nous en parler. Donc c'est un moment, je pense, important, en tous les cas heureux dans mon souvenir. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Ce week-end, il y a eu 5000 employés de chez PSA qui ont manifesté à Rennes pour ne pas perdre leurs emplois. Et les médias en ont à peine parlé. Mais dans le même temps, une petite centaine d'imbéciles islamiques, intégristes, manifestent à Paris et les médias en parlent toutes les heures. Mais vous ne vous rendez pas compte, les médias, que vous faites le travail de Marine Le Pen. Oubliez cette petite centaine d'imbéciles et parlez du fond du cœur des 5000 employés qui vont perdre leur travail, des familles qui vont plus pouvoir vivre. C'est une honte.
Bonjour, donc nous sommes tous au courant du plan de restructuration de Peugeot, c'est-à-dire moins 8000 emplois. Mais ce que l'on ne sait pas trop, c'est que depuis février 2012, il y a eu un abandon du marché iranien, c'est-à-dire 13% de ses ventes mondiales, ce qui équivaut à 640 à 850 millions d'euros. Alors je vous demande pourquoi. Eh bien tout simplement parce que depuis février 2012, Peugeot a noué une alliance avec General Motors, et qui est entrée dans le capital de PSA à hauteur de 7%. Donc ce qui signifie l'ingérence des États-Unis une fois de plus dans notre système. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. À réfléchir.
Bonjour, c'est Tiffaine de Marie-Galante. Alors hier, lundi 17 septembre, est tombée une note ministérielle qui met fin aux activités de bloc opératoire et de maternité sur l'île de Marie-Galante. Elle prend effet immédiat, ce qui signifie que les femmes qui doivent accoucher iront en Guadeloupe et doivent s'y rendre un mois avant leur terme prévu. Donc loin de leur famille, loin de leur foyer et souvent seules. Alors, sinon, elles peuvent prendre le risque de rester sur l'île, d'être transférées au dernier moment par hélicoptère, s'il y en a un disponible. Donc, je m'interpelle, toute l'île s'interpelle certainement, et se demande pourquoi Madame Touraine, dans une interview au Monde, Madame Touraine, ministre de la Santé, parlait de prendre en compte les besoins de proximité et de sécurité. Car ni l'un ni l'autre ne sont respectés dans cette décision qui est nette et qui est prise en pleine période cyclonique. Voilà, sans parler des problèmes de personnel qui se retrouvent sur la touche.
Oui, bonjour. Le gaz de schiste, non, ce n'est pas fini. Ici, dans le bassin d'Alès, on est en danger. Contre toute attente et suivant l'hypocrisie habituelle, les pétroliers ont obtenu l'autorisation de travaux d'exploration du sous-sol dans le bassin d'Alès. Les maires de 9 villages gardois concernés et opposés à cela sont convoqués à la préfecture de Nîmes. Non, le gaz de schiste n'est pas fini. No gazaran.
Alors, une bonne nouvelle pour les Français et les Françaises, surtout. Closer va être ravi. Une petite équipe de Le Jabi, qui fabrique le soutien-gorge, va reprendre en partie la fabrication, grâce à des dons, du côté de Lyon. Alors voilà, Closer pourra en faire un reportage. J'ai bien dit Le Jabi, du côté de Lyon, reprend la fabrication des soutiens-gorge. Bisous à tout le monde, au revoir.
C'est écœurant, j'en ai la nausée. Les droits de l'homme sont bafoués.
Vous n'avez pas le droit de refuser la parole. Vous n'avez pas le droit. La liberté ou la mort. La liberté ou la mort.
Je défends la Révolution française pour tout. Elle a inventé le plus puissant slogan pour nous tous. Oui. Égalité, liberté, fraternité.
Non, 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 non. La Convention nationale t'accuse.
La liberté, c'est l'égalité, c'est la justice, c'est le droit de
révolution, c'est l'humanité.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis, avec Eric Hobsbawm, aux armes, historien, deux siècles d'histoire de la Révolution française. Eric Hobsbawm, je suis très très content de vous retrouver, parce qu'on s'était vu au moment de la publication de L'âge des extrêmes, et qui a eu un succès considérable, hein, et mérité 37 langues, un livre traduit en 37 langues.
Oui. Ça continue. Il se prépare une tradition en langue vietnamite.
Ah !
Oui. Et encore une seconde édition en arabe.
Oui. Formidable. Donc ça, c'était sur le XXe siècle. Vous êtes aussi un excellent spécialiste. Je suppose que le mot vous agace de dire spécialiste, mais enfin un bon observateur aussi du XIXe siècle. Là, ce qui nous donne, Eric Hobsbawm, ce qui nous donne l'occasion de nous retrouver, c'est un bouquin donc, qui sort aux éditions de La Découverte, que vous avez intitulé « Aux armes, historien », et qui retrace deux siècles d'histoire de la Révolution française. Alors qu'on le verra, vous n'êtes pas un spécialiste de la Révolution française, mais à travers votre travail, vous avez mesuré les conséquences, on peut dire, au 19e et au 20e siècle, ce que vous venez de faire d'ailleurs, de la Révolution française. Et il s'agit de trois textes, enfin de trois conférences que vous aviez préparées, que vous avez données au moment du bicentenaire de la Révolution. Au moment du bicentenaire de la Révolution française. Et alors, pour les gens de ma génération, mon enfance, c'était dans les années 50. L'idée qu'on avait de la Révolution française, c'est que c'était un événement tragique, mais un événement positif. C'est-à-dire que c'était une révolution bourgeoise, mais que tout ce que nous étions, nous le devions à cette révolution. Ça, c'était un premier aspect. Puis il y en avait un second, pour ceux qui étaient dans un courant progressiste, c'était de dire, bon, voilà, les bourgeois ont pris le pouvoir par rapport aux aristocrates, et bien nous, maintenant, le peuple va prendre le pouvoir par rapport à la bourgeoisie. Ça, c'était une vision qu'on avait dans les années 50-60. Oui, et puis arrivent les années 70, et là, on va avoir une autre lecture de cette Révolution française, qui va être de dire, si on pouvait s'en passer, ce serait pas plus mal. On va commencer à dire, c'est la Révolution, ça mène au goulag. Il y a un chemin qui va tout droit de la Révolution française en l'occurrence, au goulag. Et ce sera, je résume et je caricature outrageusement, un peu le parcours de ceux que vous considérez comme des révisionnistes, dont François Furet, l'éminent historien et votre éminent confrère François Furet, qui sera le penseur du bicentenaire de 1989. Et on se souvient comment ce bicentenaire, qui avait été confié à un décorateur des Galeries Lafayette, qui s'appelle Monsieur Goud, avait fait de cette commémoration quelque chose d'assez édulcoré, de folklorisé, et qui était comme qui nous disait que c'était une page qu'il fallait que nous avions à tourner. Et c'est ça qui vous a agacé.
Oui,
c'est ça.
En effet.
On peut dire que c'est ça qui vous a agacé.
On ne peut pas se passer de la Révolution française, on ne peut pas se passer des grands événements d'une histoire nationale, même si on ne les aime pas. On ne peut pas se passer, par exemple, de la Révolution anglaise, de Cromwell. Elle est liée, toujours, dans un certain sens. Et la Révolution de 1688. Il me semble que le débat, discuter la Révolution française, est une chose, mais ça ne doit pas se faire en des termes de politique actuelle. Et c'est ça qui s'est fait. Même Furet, qui après tout était très intelligent, n'a pas cru que la Révolution française ne comptait pour rien dans l'histoire de France. Hein. Mais pour des raisons politiques.
Du moment.
Du moment. Politique du moment. Il a voulu la marginaliser. Hein. Et à mon avis, c'est là la raison de toutes ces erreurs du bicentenaire. Avec la Révolution française, c'est la même chose qu'il faut éviter qu'avec les Lumières. C'est-à-dire, il faut les discuter dans leur contexte historique et pas dans le contexte actuel de la politique. L'idée, par exemple, qui est analogue à celle qu'on avait proposée dans la leçon française, que tout le totalitarisme vient d'un excès de la pensée des Lumières, c'est pas vrai du tout.
On ne juge pas un événement à ce que l'histoire en fera par la suite.
Il faut bien le juger, mais dans ce cas-là, on ne juge pas l'événement, on juge la période, l'actualité. Mmh. Voilà, c'est ici la faiblesse de cette grande mode pour la mémoire. La mémoire historique s'occupe de nous, ça ne s'occupe pas du passé.
Mais est-ce que ce n'est pas toujours un peu ça ? Est-ce que, enfin, vous savez bien qu'on utilise toujours l'histoire, votre science, pour nourrir le présent avec le regard du présent ?
Oui, c'est absolument vrai. Enfin, les bons historiens sont tous engagés, ils ont des idées là-dessus. Moi-même, je suis un historien engagé assez, mais tout de même, il ne faut pas faire la confusion entre la polémique politique, la polémique idéologique et l'analyse historique. Et pour n'importe quelle analyse historique, la Révolution française reste d'abord absolument centrale pour l'histoire de la France depuis, au moins jusqu'à la seconde après-guerre, et pour le monde entier. Impossible de comprendre quoi que ce soit sur le 19e siècle sans la Révolution française.
Au nom du peuple français, le 12 décembre 1988, l'inoubliable Yves Mourouzi animait sur TF1 une émission où la question était posée aux téléspectateurs de savoir si, oui ou non, il fallait guillotiner Louis XVI. La réponse fut non, on ne le guillotinera pas. C'était là le triomphe provisoire, bien sûr, de la pensée conservatrice néolibérale des années 80, qui voulait rompre avec l'héritage révolutionnaire de 1789. Dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, François Furet écrivait « La Révolution n'a plus grand-chose à gagner à être investie par les passions politiques ». Or, Eric Hobsbawm, notre ami, invité aujourd'hui, éminent historien britannique, publie aux éditions La Découverte « Aux armes, historiens, deux siècles d'histoire de la Révolution française » et considère que ceux qui pensaient ainsi dans ces années 80 étaient des révisionnistes. Alors, il y a des écoles quand même qui s'affrontent hein, dans toute cette lignée d'historiens dans laquelle vous vous inscrivez. On a quand même, de la Révolution française, des lectures.
Pas de grande
polémique.
De grandes polémiques, de grands débats là-dessus. D'ailleurs, au début, évidemment, on l'a reconnu comme un phénomène global, un phénomène énorme. Ensuite, tout de même, l'idée de la Révolution française comme révolution bourgeoise vient des historiens libéraux et libéraux modérés de la Restauration. Oui. Benjamin Constant et tout le reste, Thierry, Thiers, tout le reste. Ils étaient d'accord là-dessus. Et c'est après que Marx et les autres, ça leur arrangeait à très bien, mais enfin, ce n'était pas leur invention. D'ailleurs, Marx s'est très peu occupé de l'histoire de la Révolution française. Après, il existe, pour ainsi dire, cette orthodoxie, la Révolution française comme le modèle de la modernisation des États bourgeois, oui, qui existe un peu partout. On accepte ce modèle.
Y compris la terreur ?
Au début, on accepte. Et c'est là une différence entre, pour ainsi dire, les néolibéraux de la Restauration et les néolibéraux de l'époque Furet.
Des années 80, des années 70.
Des 80. Vous savez, par exemple, Guizot. Guizot, après 48, est allé bien à droite, comme tout le monde. Mais avant, il disait, presque tous les gens disaient, on ne peut pas éliminer la terreur, parce que ça a été un élément constitutif, même dans la France bourgeoise, la France modérée.
Guizot était, vous le classez quoi, parmi les conservateurs ?
Non, c'était un libéral dans le sens économique, mais aussi dans le sens...
Les idées.
Le sens politique aussi, un libéral très modéré. Pour les libéraux, la grande idée, c'était la révolution bourgeoise aurait dû s'arrêter en 91. Et d'ailleurs, même, je me rappelle, il y a tant d'années, quand j'ai écouté une série de conférences sur la révolution française en Angleterre par le grand Ernest Labrousse, qui lui-même le disait, enfin, le acquis permanent de la révolution française, c'était précisément ce qui s'était établi entre 89 et 91, oui. Mais sans ce qui est devenu après 92, ce ne se serait pas établi en permanence.
Finalement, il faut attendre Furet pour qu'on cherche à en faire un objet dépassé, périmé.
Périmé, oui.
Il faut absolument attendre ce moment-là. Jusque-là...
Jusque-là, il reste...
quelque chose de... une rupture fondatrice.
Une rupture fondatrice, une rupture discutable, évidemment. Mais tout de même, on était d'accord que c'était fondamental pour l'histoire moderne. Et c'est précisément, c'est la nouveauté des années 70, 80, et qu'ils ont tout à fait jeté à la poubelle.
Les Français eux-mêmes, en plus.
Oui, par les Français eux-mêmes, mais pas les autres.
C'est ça.
Les autres ont réinterprété, mais ce n'était pas un rejet.
Dans votre livre, là, Eric Hobsbawm, au début, vous citez une phrase de Michel Rocard, qui date de 1988, dans Le Monde. Michel Rocard disait, 88, ça veut dire juste au moment des préparatifs du bicentenaire, il disait, la révolution, c'est dangereux, si on en fait l'économie, c'est pas plus mal. Ça résume quand même, c'est une petite phrase qu'il a dû jeter comme ça en l'air. Mais enfin, ça dit assez bien cette époque. C'est dangereux. La révolution, c'est dangereux.
Oui, parce que la révolution, franchement, n'était pas sur le programme. Nulle part dans les pays développés d'un capitalisme libéral, constitutionnel, démocrate. Donc, les dangers à la société viennent d'autres que les héritiers de Babeuf. Hein? Ce que Rocard disait en général, en principe, est assez bien. On préfère faire sans révolution. Mais tout de même, dans les circonstances, c'était une proposition politique.
Intéressant de revenir sur ces années 80 et notamment sur le bicentenaire de la Révolution française en 1989, souvenez-vous, où l'on fit de cet anniversaire une aimable fête de patronage à l'échelle nationale, mais qui cherchait à rompre avec cet héritage. Pourtant, auparavant, les premiers bénéficiaires de 1789, c'est-à-dire les bourgeois, même farouchement réactionnaires, comme Guizot, dont Eric Hobsbawm vient de parler, ont longtemps estimé au contraire que la Révolution, et je cite Guizot, « entreprise dans le dessein du bien général a été la lutte terrible mais légitime du droit contre les privilèges, de la liberté légale contre l'arbitraire ». Cette fête de 1989, ces commémorations de 1989, nous les avons évoquées, souvenez-vous, subtils auditeurs, en compagnie de François Cusset et de Serge Halimi, lors d'une série d'émissions mémorables, La décennie, le cauchemar des années 80.
La soirée du 14 juillet sur Antenne 2, ça démarre dès 20h30 avec une grande soirée de variétés. Charles Aznavour, Véronique Sanson, Bernard Lavillier, Elsa, Enrico Macias, Tana Mouskouri, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Coluche, Robert Hossein, la compagnie créole et Mireille Mathieu qui interprète la Marseillaise sous l'Arc de Triomphe. À 21h30, c'est le super show du bicentenaire par Jean-Paul Goude. Le 14 juillet sur Antenne 2, un spectacle comme vous n'en verrez pas avant 200 ans. Antenne 2, toute la passion du spectacle.
À deux, passionnément.
Ça, ça fait envie quand même. 14 juillet 1989, un grand moment de la commémoration de l'histoire, de la mémoire, de la culture. François Cusset, vous étiez heureux ce jour-là.
C'est le devenir publicitaire de la Révolution qui est terminé. Hein. N'oublions pas que la Révolution française est terminée. C'est le slogan de l'année 89. C'est le titre célèbre de François Furet, historien officiel de ce bicentenaire. Donc effectivement, on est en plein délire publicitaire. Il s'agit de relire la Révolution française non plus à la lumière des phénomènes sociaux qui suivront du 19e siècle social ou même de la Révolution russe, mais à la lumière d'une révolution qui a eu lieu quelques années avant, qui est 1776, la révolution américaine, c'est-à-dire de faire de 1789 une révolution purement politique et pas du tout sociale, et surtout un événement dangereux parce que portant en germe par nécessité la dérive de la terreur, de la guillotine et des années sanglantes de la révolution. Alors évidemment, ce qu'on vient d'entendre, c'est pas ça. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la version publicitaire de la chose avec Jean-Paul Goude, publicitaire chéri des Français, proposant effectivement ce défilé incroyable où on a tous les symboles et les clichés de l'histoire de France qui défilent et où on a, je crois, Jessie Norman qui chante la Marseillaise sur un char des Champs-Élysées. On est effectivement en train de...
Un ours qui est censé représenter la Russie parce qu'on fait dans le symbole relativement simple. Oui, ça a été un très grand moment que ce bicentenaire. Et je crois que quand on parle de la Révolution française, ce qui est intéressant dans cette année-là, c'est que ce qu'on célèbre, c'est surtout les contre-révolutionnaires. C'est avant tout la célébration des Chouans, des Vendéens. C'est la publication d'ouvrages qui insistent sur le coût de la Révolution française. Il y a un livre, je crois, de Cédillo qui s'appelle « Le coût de la Révolution française » et dont le seul objectif, c'est de montrer qu'on aurait mieux fait de s'en dispenser. Et c'est les spectacles de Robert Hossein qui font apparaître la Révolution comme uniquement un bain de sang. Donc c'est une célébration assez paradoxale à bien des égards.
Oui, enfin, c'est de nous dire la Révolution conduit au bain de sang, tout engagement conduit à la Révolution. Ne vous engagez pas, acceptez l'ordre établi une bonne fois pour toutes. C'est ce que vous devez comprendre. Mettez-vous bien ça dans la tête.
Pour reprendre une fois de plus notre ami François Furet, nous sommes condamnés à vivre dans le monde où nous vivons.
National t'accuse.
Danton.
La liberté, c'est l'égalité, c'est la justice, c'est les droits.
La révolution, c'est l'humanité, la justice et la vérité.
Assez de messes. Nous avons le droit de m'assassiner. Vous voulez assassiner.
Je guillotine encore tous les jours. C'était 40. J'en ai la nausée.
Les droits de l'homme sont bafoués.
Vous n'avez pas le droit de me refuser la parole. Vous n'avez pas le droit.
Lorsqu'il s'agit de la condition des hommes, de leurs problèmes, que celui de la justice, celui de la dignité, celui de la liberté, celui des rapports, de leurs conditions de vie, je trouve que c'est la moindre des choses qu'ils puissent s'exprimer, participer et être partie prenante, surtout dans un spectacle qui se passe complètement dans la salle et complètement sur scène à la fois.
Je déclare que je n'ai rien à me reprocher.
Lamento del cornudo, la lamentation des cocus, c'est ainsi que Borges qualifie le tango. Et on pourrait dire la même chose de ces repentis des années 80 qui effectivement voulaient faire croire à tout le monde que nous sommes condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. Je reprends la phrase de François Furet qui fait un très très beau pendant à la phrase fameuse de Margaret Thatcher, « There is no alternative ». Il n'y a pas que Margaret Thatcher en Angleterre, il y a aussi des gens comme Eric Hobsbawm, notre ami historien, qui publie « Aux armes, historien, deux siècles d'histoire de la Révolution française » aux éditions La Découverte.
Les collaborateurs de Mme Thatcher s'en tirent par une plaisanterie. Il paraît qu'ils appellent entre leur patronne Tina. Ce sont les initiales de sa phrase préférée, « There's no alternative », c'est-à-dire « Il n'y a pas d'autre solution ».
Mais tout ça se passait en 1989. Que sont devenues les idées révisionnistes de l'époque ?
La seule forme de révisionnisme qui a été totalement éliminée depuis le bicentenaire, c'est celui de Furet, qui voulait nier l'élément social, que c'était un phénomène social important et que vous lui niez l'importance dans l'histoire de la France, de la Révolution française. Ça c'est mort depuis. Oui. C'est évident.
Et pourtant, Furet, dans sa jeunesse, avait été au Parti communiste français. Il avait parti du PSU. Il collaborait au Nouvel Observateur. C'était un homme de gauche.
Oui, c'est un homme de gauche qui est devenu un libéral du type Benjamin Constant, etc. Quelqu'un du centre. Mais en France, surtout, une grande partie des jeunes historiens très capables qui étaient au Parti communiste au début pensaient que 25% des étudiants à l'école normale de rue d'Ulm, après-guerre, étaient inscrits
au Parti communiste.
Au Parti communiste. Oui. Alors donc, il y a pas mal de gens qui, après les 30 glorieuses, je veux dire les 30 glorieuses du marxisme comme idéologie dominante, hégémonique parmi les intellects français, ont révisé leurs idées.
Nombreux, oui, ils étaient nombreux.
Assez nombreux.
Assez nombreux.
Et il était absolument sûr que ce n'est pas un phénomène purement français, que le marxisme comme matrice de ces types d'analyse a un peu dégringolé dans les années 70.
Mais pourtant, je suis sûr que si on faisait un sondage où, parmi les jeunes Français aujourd'hui sur la Révolution française, il y a ceux qui répondraient que ça ne leur dit pas grand-chose, et puis ceux qui répondraient que la Révolution, c'est pas bien, ils diraient un petit peu la phrase de Rocard, c'est dangereux, c'est-à-dire que c'est violent, et que c'est la terreur, que la Révolution égale la terreur, et que ça mène forcément au pire, et au totalitarisme. Je pense que c'est intuitif ce que je dis là. J'ai l'impression que c'est ça qui est aujourd'hui dans l'esprit des jeunes générations. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas l'appareil pour mesurer ça.
Oui, vous avez peut-être raison, mais je ne sais pas. Parce qu'il y a, surtout parmi les gens d'un certain âge, n'est-ce pas, il n'y a pas simplement la politique et l'idéologie actuelle d'aujourd'hui, mais la force subsiste de l'idéologie d'hier, c'est-à-dire l'idéologie de la guerre froide. Et, par exemple, tout le débat sur le totalitarisme est un débat qui remonte à la guerre froide. Autrement, ça n'aurait jamais eu une telle importance. Et à mon avis, c'est plutôt ridicule. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, jeter à la poubelle l'étude des classiques parce qu'on déteste l'esclavage. L'Antiquité grecque et romaine reste un sujet absolument central pour le développement du monde moderne, avec ses côtés positifs et négatifs, mais tout de même, alors de dire « parce que je déteste l'esclavage, je ne m'en occupe plus de ça », ça n'a pas de sens.
Bien sûr.
Et à mon avis, la Révolution française est un de ces épisodes, ces événements globaux, comme d'ailleurs la Réformation et d'autres, qui continuent à attirer, qui génèrent les problèmes, et des problèmes pour chaque génération, des nouveaux problèmes.
La succession d'événements la plus terrible et capitale de toute l'histoire est le point de départ pour l'histoire du 19e siècle. Ainsi, l'historien britannique, collègue d'Eric Hobsbawm, Holland Rose, qualifie la Révolution française. Et Hobsbawm finit sa préface et sa présentation de ce texte aux armes, historien, avec cette phrase d'Hippolyte Taine : que peut un sermon contre ou pour un tremblement de terre ? The revolution will not be televised, 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 will not be televised. Eric Hobsbawm, votre compatriote Margaret Thatcher nous avait dit « il n'y a pas d'alternative, there is no alternative ». Est-ce que vous pensez effectivement comme elle ?
Si, il y a des alternatives.
Quelles sont-elles aujourd'hui ?
L'alternative à une globalisation purement dans les termes néolibéraux capitalistes. La globalisation continue, ça continue depuis des siècles. Mais ce qui n'est pas nécessaire, c'est l'établissement d'un marché absolument libre. Et au contraire, dans les années 90 et surtout à l'après, on est arrivé au point où les résultats de ce type de globalisation se sont révélés assez curieux. D'abord, il y a eu une instabilité dans le monde économique énorme, une instabilité que nous, dans les pays développés, ont jusqu'ici évité. Mais imaginez-vous, par exemple, que en Argentine, dans 6 mois, la moitié de la population est tombée dans la misère. En Corée du Sud, quelques années avant, dans 6 mois, le marché pour l'automobile a baissé de 40%. Ce type de catastrophe économique est quelque chose qu'on ignorait dans l'époque avant le triomphe du néolibéralisme genre Washington, de l'IMF. Donc il y a une alternative. Et même, il y a un certain sens, une alternative s'impose. Menée par exemple, n'est-ce pas, aux Indes, qui font, enfin, s'avancent tous azimuts, dans une grande croissance économique. Mais voilà, la moitié, plus que la moitié, reste dans la misère. Il faut faire quelque chose.
Ce que vous dites, on peut le dire de la Chine aussi.
La Chine, il y a des problèmes, mais tout de même l'industrialisation, qui est d'ailleurs sous un contrôle un peu de l'État. Là, la Chine a eu mieux que l'Inde, parce que l'industrialisation de la Chine a généré du travail. Et donc, enfin, il y a des centaines, des dizaines, des centaines de millions de gens qui sont émigrés du pays, de l'arrière-pays, qui sont arrivés avec toute l'exploitation. Enfin, la misère a diminué nettement en Espagne, bien que l'inégalité s'est accrue.
C'est ça.
Peut-être plus que notre, mais l'accroissement de l'inégalité sociale et économique est aussi une fonction de cette globalisation. Il y a des alternatives. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire.
Il faut des alternatives.
Il faut des alternatives, mais plus que ça, il y a des possibilités théoriques et pratiques. S'il y a les conditions politiques pour les réaliser, ça c'est une autre affaire.
Je notais, Eric Hobsbawm, dans votre biographie que vous êtes inscrit au Parti communiste anglais, britannique.
J'étais.
En 1936.
36, oui.
C'est ça, hein ?
Oui,
1936.
C'est ça.
Vous aviez 20 ans ? À peine 20 ans ?
Oui. Moins.
19 ans, 19. Vous aviez 19 ans. Oui. Oui. Je pense que c'était un geste révolutionnaire que de s'inscrire.
Oui, absolument.
Ouais, c'est ça. Vous êtes toujours révolutionnaire ?
À 90 ans, c'est plus difficile de rester révolutionnaire. Je crois qu'enfin, il y a toujours la nécessité d'une révolution dans certains pays. Par exemple, le Moyen-Orient, dans une partie de l'Afrique, etc. Je ne suis plus révolutionnaire intuitif, qui préfère, pour ainsi dire, les activités directes, les barricades, qui a le goût spontané des barricades.
Ça vous a passé avec le temps ?
Ça s'est passé, à mon avis, après 68, quand j'ai vu qu'une partie de jeunes s'était formée, des petits partis, de petits groupes, soi-disant révolutionnaires, mais vraiment révolutionnaires, qui agissaient par la terreur, par tout, à base d'une théorie qu'ils croyaient bonne et qui était, à mon avis, contre-productif.
Vous parlez d'actions directes, des...
D'actions directes, je parle des...
Fraction armée rouge en Allemagne,
des fractions d'armée brigade, rouge, des brigades rouges...
En Italie.
Et même, enfin, un peu avant, de cette espèce de volontarisme quasi-léniniste que de certains disciples de Fidel Castro, Guevara, par exemple. Mais au contraire, enfin, je ne suis pas contre les actions, par exemple... Je croyais toujours que les gens comme Guevara, etc., méconnaissaient la réalité. Il y a des circonstances où les paysans étaient prêts à prendre et à donner l'appui aux guérillas. Mais eux, ils ne savaient pas, parce qu'ils croyaient à imposer d'en dehors ça. Alors donc, le FARC en Colombie, par exemple... Je continue à avoir un certain faible pour ça, bien que...
Vous avez un faible pour les FARC.
Pour les FARC, oui, parce que ça...
Ça va nous coûter cher, ça.
On est non, c'est bien... Malheureusement, il reste très peu de l'aspect révolutionnaire des FARC. Pendant 30 ans, les FARC ont cherché à devenir civils, à former un parti.
La UP.
Oui, exactement.
L'Union patriotique en 1982.
L'Union patriotique. Tout d'un coup, tout le monde a zigouillé, tous les UP.
Oui, 3 000, 4 000.
Les maires, les députés.
Les élus.
Alors donc, dans des circonstances, ils avaient très peu d'alternatives que de continuer la lutte. Que malheureusement, depuis, grâce à la globalisation du commerce de drogue et autres choses, ils ont changé un peu le caractère, ça c'est une autre affaire.
Oui, mais je voudrais, Eric Hobsbawm, je voudrais qu'on reste sur Che Guevara quand même, parce que c'est quand même un personnage extrêmement populaire chez nous, et là, c'est quelqu'un que vous avez observé, c'est un héros du XXe siècle, et vous êtes un formidable observateur du XXe siècle. Je voudrais que vous nous en parliez un peu plus, vous êtes en train de nous dire, oui, ils avaient une telle vision à eux de ce que devaient être les changements, la révolution, qu'ils ne se rendaient pas compte que les paysans, par exemple Bolivie, étaient prêts eux, mais il n'y avait pas de concordance, c'est ça que vous nous dites.
C'est exactement ça, ce que je veux dire. Il a essayé d'apporter, de faire l'importation de la révolution dans une situation que lui croyait révolutionnaire, mais qui n'était pas, c'était pas dans les termes de la population actuelle. Voyons par exemple actuellement en Bolivie, on voit un mouvement vraiment qui a des racines dans les indigènes. Mmh. D'ailleurs, indigènes, c'est très curieux parce qu'une grande partie de ceux-là sont bilingues. Ils parlent l'espagnol aussi. Mais voilà, ça, c'est un mouvement qui n'a rien du tout. Che Guevara est devenu un symbole global. Et je m'en réjouis. Mais tout de même, il a écrit, à mon avis, il a écrit un petit livre utile sur la guérilla, qu'il a négligé lui-même, puisqu'il était nettement trop âgé pour continuer comme ça. Mais pour le reste, il n'a jamais dit des choses très importantes.
Vous citez Gramsci à la fin de votre livre. Gramsci, en quelques pages, revient sur une histoire de la Révolution française où il explique que le passage des Jacobins, le passage de 92-93, était un passage où la Révolution s'est accélérée parce que, je le cite, les Jacobins ont fait avancer la bourgeoisie à coups de pied au cul, mais que les conditions objectives n'étaient pas réunies pour que ces acquis-là restent.
Renaud Lambert, journaliste au Monde diplomatique, ancien reporter à la base Si j'y suis.
Et c'est ce que vous mettez à la fin de votre livre. Est-ce que vous pensez qu'un jour, les conditions objectives pour une transformation sociale de ce type-là pourront être réunies? Est-ce que ce n'est pas acte de pessimisme que de mettre ce texte de Gramsci en fin de livre?
Voyons, heureusement, nous les historiens ne sommes pas des prophètes. Ce n'est pas notre spécialisme. On laisse ça au bureau de prévision des grandes maisons commerciales. Et donc, ma réponse est « je ne sais pas ». Je l'espère, je ne le sais pas. Pour le moment, je suis plutôt sceptique. Mais voilà, l'histoire ne se termine jamais. Je crois par exemple que le mode d'actuation politique du dernier siècle, du 19e, est en grande partie périmé. Les partis de masse, même les partis d'avant-garde, hein, les partis centralisés, ça ne fonctionne plus comme avant. Il faudra trouver d'autres façons de mobiliser les pauvres. Le danger que ça ne sera pas nous, les héritiers des Lumières, de la tradition du progrès de la Révolution américaine jusqu'à, y compris la Révolution russe et même chinoise, qui vont être l'inspiration pour ces nouveaux développements, mais d'autres. Mais il y a tout de même une différence entre ceux qui sont les gens qui ont perdu les illusions, mais qui restent tout de même à gauche, qui croient tout de même qu'il est possible, qu'il est nécessaire qu'on s'occupe de la libération du genre humain.
Oui. Et ça vous en faites partie.
Hein?
Ça vous en faites toujours partie de ce monde-là.
Oui, naturellement. Voilà. Et voilà une des raisons pour laquelle je défends la Révolution française, parce que tout, elle a inventé le plus puissant slogan pour nous tous, égalité, liberté, fraternité, qui continue à rester valable.
Hein? Mais c'est pas dans cet ordre-là. Vous avez mis l'égalité devant. Vous venez de mettre l'égalité devant. Là, vous vous êtes trahi.
Oui.
Ah oui.
L'égalité est centrale, à mon avis.
L'égalité, c'est oui, mais dans les trois mots, c'est le mot liberté qui vient d'abord. On a mis liberté. Égalité fraternité. Et liberté, ça veut dire aussi libéralisme, ça veut dire liberté du commerce, liberté la liberté du renard libre dans le poulailler libre.
Oui, bien sûr. Oui. Il y a la liberté est multiforme. Mais dans la combinaison liberté, égalité, fraternité, elle perd une partie de sa multiformité. La libération des peuples, les mouvements de libération populaire qui ont été inspirés en grande partie. Après tout, je le cite dans mon livre, même actuellement, la majorité des États dans le monde a le drapeau inspiré par la tricolore. Il y a quelque chose, même la Russie post-communiste a choisi le classique drapeau tricolore.
Toujours point de vue original d'Eric Hobsbawm, qui nous rappelle ainsi l'âge des extrêmes. Vous souvenez de ce livre que tout bon citoyen doit avoir lu et avoir à portée de la main. Le livre dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est « Aux armes, historiens, deux siècles d'histoire de la Révolution française » aux éditions de La Découverte. Très, très peu de critiques de ce livre dans la presse à ma connaissance, mais tout de même, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique « Émission là-bas si j'y suis », où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org.
À la technique aujourd'hui, Florent Layani et Nicolas Slimani. Cette émission a été réalisée par Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez et préparée par Pierre-Yves Bulteau. Solène Cordier attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The
revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Dans quelques minutes, juste après les infos, vous retrouverez Frédéric L'Odéon pour le Carrefour de l'Odéon.
Être utile à Julien, c'est lui offrir de nombreux avantages pour sa nouvelle chaudière.
Moi, c'est Julien. Et ma belle-mère dit que c'est le bon moment pour changer ma vieille chaudière au gaz naturel avec les partenaires Dolce Vita. Il y a plein d'avantages. Prime économie d'énergie, solution de financement avantageuse, remise fabricant. Bref, ma belle-mère a raison. Ça m'énerve, mais elle a raison. Mais ça m'énerve.
Pour connaître le détail de l'offre de GDF Suez Dolce Vita et de ses partenaires, appelez le 0810 003 693, prix de l'appel selon l'opérateur. Offre soumise à condition.
GDF Suez Dolce Vita, être utile aux hommes.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter, partenaire de l'exposition Canaletto, Guardi, les deux maîtres de Venise, au musée Jacques-Marandré à Paris, jusqu'au 14 janvier. Pour la première fois, une exposition présente l'art de la Veduta à travers une cinquantaine de chefs-d'œuvre prêtés par les plus prestigieux musées et collections internationales. Découvrez la splendeur de Venise au XVIIIe siècle à travers ses légendaires places, canaux et lagunes. Canaletto Guardi, les deux maîtres de Venise, au musée Jacques-Marandré à Paris. Une exposition à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Bienvenue et très bel après-midi sur France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, l'explosion était de faible puissance, elle a fait peu de dégâts, un blessé léger et trois autres personnes transportées en état de choc à l'hôpital de Gonesse. Voilà donc pour le bilan de l'attaque menée aujourd'hui contre un supermarché cachère de Sarcelles dans le Val d'Oise. Grenades ou engins inflammables type cocktail Molotov, on ne connaît pas pour l'instant la nature de l'explosif. Et cette attaque est-elle liée aux tensions actuelles soulevées par la diffusion sur internet d'un film islamophobe ou encore à la publication dans Charlie Hebdo aujourd'hui de caricature de Mahomet? Là non plus, on ne sait pas. En tout cas, le président de la communauté juive de Sarcelles assure, lui, pour l'instant, qu'il n'y a pas de problème intercommunautaire particulier à Sarcelles. Toujours est-il que, conséquence du climat actuel, la France a pris une décision ce matin, fermer vendredi ses représentations diplomatiques, ses écoles et des centres culturels français dans une vingtaine de pays musulmans. Le vendredi étant un jour de prière, il n'y a pas beaucoup de manifestations, il n'y en a pas eu beaucoup aujourd'hui. Mais au Soudan, le gouvernement a décidé quand même de bloquer le site YouTube, idem en Arabie Saoudite. Enfin, pour en revenir à l'affaire Charlie Hebdo, sachez que le téléphone sonne sera consacré ce soir aux publications des caricatures de Mahomet. Le magazine a-t-il eu raison de les publier? Vos questions, vos réactions dès 17h sur franceinter.fr ou encore par téléphone au 01 45 24 7000. Barack Obama recevra aujourd'hui Aung San Suu Kyi à la Maison Blanche. C'est la première fois que le président américain rencontre l'opposante birmane qui effectue actuellement une visite aux États-Unis. Cette rencontre ne sera pas ouverte à la presse. Bruxelles demande aujourd'hui à l'agence européenne chargée de la sécurité des aliments d'examiner les résultats de l'étude française sur les OGM. Une étude révèle la toxicité des organismes génétiquement modifiés sur la santé. Des rats nourris avec du maïs OGM meurent plus vite et sont plus souvent victimes de cancers que les autres. La Commission européenne promet d'en tirer les conséquences, mais une décision a d'ores et déjà été prise. Le gel de l'examen de la demande de renouvellement de l'autorisation de culture accordée aux géants américains du secteur Monsanto pour le Mont 810. Les bureaux parisiens d'UBS ont été perquisitionnés aujourd'hui. Une perquisition dans le cadre d'une enquête lancée à la suite de soupçons d'aide à l'évasion fiscale. L'établissement bancaire suisse est soupçonné d'avoir mis en place une double comptabilité et facilité également l'ouverture de comptes non déclarés en Suisse. La banque suisse a fait savoir qu'elle coopérait avec la justice. Deux personnes ont déjà été mises en examen dans ce dossier. Enfin, c'est son dernier voyage. Endeavour a pris aujourd'hui la direction de la Californie et pour traverser les États-Unis d'est en ouest, eh bien, la navette spatiale américaine a été amarrée au dos d'un Boeing 747. Alors plusieurs escales sont prévues. Endeavour pèse quand même 85 tonnes. Son arrivée est annoncée pour vendredi sur l'aéroport de Los Angeles. Mais pour l'instant, sur France Inter, eh bien, il est 16h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Le jeu des 1000 euros est en Corrèze. Nous enregistrons en public aujourd'hui mercredi à Argentat, à la salle socioculturelle à 18h30 et demain jeudi à Varès, toujours en Corrèze, à 18h30 à l'espace Colette. À très bientôt en Corrèze.
Autrefois, c'était mieux parce que c'était... Il n'y avait pas les... C'était...
Non. C'est... Mais vous continuez longtemps?
Tu penses qu'ils appellent ça de la musique?
En tout cas, les informations, bah, il paraît que c'est pas vrai.
C'est...
France Inter.
C'est différent maintenant.
La voix est libre.
Allez, c'est à vous, Frédéric Lodéon.
Vous fait rire la promo, hein, Laetitia
Gaillet? Bah oui, j'ai l'impression de passer pour une cloche à chaque fois, mais c'est pas grave.
Mais non, elles sont très bonnes, vos infos, en fait.
Merci, c'est gentil.
Carrefour de l'Odéon, avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre, dans 26 lieux du patrimoine francilien.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, il fait encore beau, en tout cas au-dessus de Paris, j'espère que chez vous c'est pas mal non plus. Et on peut déjà penser au week-end, on peut déjà penser à s'évader éventuellement et aller par exemple à Saint-Nazaire où il y a comme chaque année le festival Consonance du 22 au 29 septembre, le pont de Saint-Nazaire. Moi je m'en lasse pas, monter en voiture sur ce pont c'est une expérience extraordinaire, faut pas avoir le vertige, faut bien dire, mais voir cette Loire à marée basse avec tous les bateaux... fixé dans le sable, ou alors à marée haute, Loire tumultueuse. On respire vraiment largement à Saint-Nazaire. Et en plus, il y a de la musique. Ça commence donc samedi, 17h, au Franciscain, à la Galerie des Franciscains. Conférence Debussy, parce que je dois vous dire que le festival est consacré en grande partie à Claude Debussy. Ça s'appelle Debussy et nous. Évidemment, c'est son année d'anniversaire. Alors, il va y avoir Jean-Yves Clément de l'Université Populaire de Caen, puis écrivain, musicologue, avec Henri de Marquette, beau violoncelliste et puis aussi bon débatteur, Michel Béroff sera au piano et à 20h30 au théâtre samedi donc à Saint-Nazaire, plein de musique française autour de Claude Debussy et l'orchestre Divertimento va être dirigé par Zaya Ziouani qui est une jeune femme chef d'orchestre qui dirige aussi l'orchestre national d'Algérie qui fait énormément dans les banlieues pour ramener à la musique les jeunes qui quelquefois feraient d'autres choses moins passionnantes peut-être ou moins autorisées. En tout cas voici le directeur artistique de ce beau festival, il s'appelle Philippe Graffin avec son ami Pascal Devoyon dans un caprice brillant de Camille Saint-Saëns. Il pensait l'avoir perdu ce caprice et puis il l'a un peu transformé de mémoire pour faire le final de son troisième concerto par la suite, mais enfin peu importe, retrouvé, perdu, transformé, ça reste toujours un sacré Saint-Saëns.
Thank you.